Bonjour, vous êtes sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et c'est Clap. Clap, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans Manceaux, avec autour des micros Pierre Barry.
Bonjour.
Bonjour Pierre et Michel Lafon. Cette semaine, 9 nouveautés à l'affiche: Mascarade, Amsterdam, Le Secret de Panfyr, X, Close, Jackie Caillou, Une robe pour Mrs. Harris, Arca et Comedy Queen. Un des films que je vous avais annoncé la semaine dernière, Vous n'aurez pas ma haine, n'a pas trouvé de place sur les écrans Manceaux. C'est un petit peu étonnant, mais c'est comme ça. Voilà, donc pour ce qui est de la programmation musicale, eh bien, on va commencer par un titre que l'on entend dans Mascarade. C'est un titre d'un groupe britannique ou américain, je ne sais pas, King Harvest, Dancing in the Moonlight, sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
We get it almost every night, and when that moon gets so big and bright, it's supernatural delight. Every border was dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep things loose, they keep things alive. Every border was dancing in the moonlight.
Dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine and natural sight. Everybody's dancing in the moonlight.
We like our fun and we never fight. You can't dance and stay uptight. It's supernatural delight. Every border was dancing in the moonlight.
Dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine and natural sight. Everybody's dancing in the moonlight.
Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep things loose, they keep things alight. Every border was dancing in the moonlight.
Everybody's dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine and natural sight. Everybody's dancing in the moonlight.
Everybody's
dancing.
Dancing in the Moonlight, King Harvest, et c'est un titre que l'on entend dans Mascarade, et ça tombe bien parce que Mascarade, eh ben c'est tout de suite Mascarade, le film on peut le voir au Pâté Quinconce, au Colisée, au Méga CGR. C'est un film de Nicolas Bedos, acteur, réalisateur, scénariste, né en 80. À son actif en 2016, un excellent film s'appelait Monsieur et Madame Adelman, avec Doria Tillier, qui était sa compagne à l'époque, et lui-même. 2019, La Belle Époque, avec Daniel Auteuil, Fanny Ardant, Guillaume Canet. 2021, OSS 117, Alerte Rouge en Afrique, avec Jean Dujardin et Pierre Niney. Et puis en tant qu'acteur, on l'a vu dans des films comme L'amour dure 3 ans, Le Populaire, Amour et Turbulence, L'Invitation, Les Fantasmes, etc. Le film Mascarade dure 2h14 lorsqu'un jeune gigolo tombe sous le charme d'une sublime arnaqueuse. C'est le début d'un plan machiavélique, sous le soleil brûlant de la Côte d'Azur. Les deux amoureux sont-ils prêts à tout pour s'offrir une vie de rêve, quitte à sacrifier celle d'une ancienne gloire du cinéma et d'un agent immobilier? Point d'interrogation. La revue de presse, très partagée. Hein. Le Point, c'est drôle, vif, cruel, d'un cynisme absolu et doté d'un casting au top. Oui, alors le casting, c'est Pierre Niney, François Cluzet, Isabelle Adjani et Marine Wacht. Marianne, Natacha Polony, Mascarade n'est pas seulement un film au casting superbe qui peut défiler sur les plateaux télé pour la promotion. C'est un film pour les spectateurs, un film dans lequel le plaisir évident qu'a Nicolas Bedos à réaliser, à filmer ses acteurs, cette lumière, ces plans-là plutôt que d'autres, se transmet à ceux qui suivent cette histoire d'escroquerie, d'amour passionnel, de petites mesquineries et de grandes destructions. François Forestier dans l'Obs, film ambitieux et trop long. Cette ambiance soigneusement pourrie sur la Côte d'Azur où se croisent des personnages déplaisants, gigolos et actrices vieillissantes, jeunes arnaqueuses et bourgeois quinca, est réussie. Personne n'est innocent et c'est un joli bal des faux culs. Olivier de Bruyne dans Les Échos, malgré les longueurs, ce film au casting de stars compte quelques atouts. Gaël Golen dans Première, certains segments sont parfaitement ouvragés et le casting chromé impressionne. Pourtant, sans colonne vertébrale, avec ses dialogues outranciers et ce rebondissement forcé, Bedos finit par lasser son spectateur, ou plutôt par laisser son spectateur en plan, avec ses personnages un peu moches, un peu lâches et globalement repoussants. Eh bien, on continue. Le jour le dimanche, tout en prenant plaisir à égratigner un monde de faux-semblants dévoyé par l'argent, le cinéaste nous perd dans les multiples rebondissements d'une intrigue un peu vaine et très bavarde, malgré l'opération Charme de Marine Wacht et Pierre Niney. La rédaction du Parisien, dans cet océan d'ennui, 2h14, les hommes sont tous des porcs, des enculés, volage et violent. Mascarade nous gratifie par ailleurs deux séquences d'une vulgarité inouïe. Marie Sauvion Télérama, Kouba, mensonge et grosse ficelle mènent le bal dans le quatrième long métrage Nicolas Bedos, aussi pathétique que son microcosme Bling Bling. Alors donc, ce film est proposé, je le répète, au Colisée, au méga CGR et au pâté quinconce. Donc c'est une histoire d'arnaque et de manipulation très sophistiquée sous le soleil de Nice et de la Côte d'Azur en général. C'est brillamment interprété et mis en scène, mais toutefois c'est quand même beaucoup trop long, 2h14. Alors quoi, de quoi est-il question? Eh bien, Adrien et Margot exercent en gros le même métier sans se connaître. Lui, il est gigolo, on va dire professionnel, d'une célèbre actrice vieillissante et évidemment très riche, sinon ça n'a pas d'intérêt. Elle, eh bien, elle joue les filles entretenues pour des messieurs d'âge mûr dont elle est la maîtresse cachée. Alors ils se rencontrent lors d'une soirée, tombent amoureux, c'est surtout lui qui tombe amoureux d'elle d'ailleurs, et décide de monter une arnaque qui devrait les mettre à l'abri du besoin pour longtemps. Et chacun prêt à tout de se lancer dans des manipulations de haut vol. Donc c'est un film qui, à sa manière, parle de lutte des classes et des luttes des générations également, avec une certaine causticité, même de la cruauté vis-à-vis de ces pigeons, à travers des personnages complexes qui chacun va voir sa vie bouleversée par cette histoire. Alors comme il convient dans ce genre de film, le spectateur ne découvrira qu'à la fin le poteau rose, après bien des péripéties, des coups tordus, des ambiguïtés, dont toutes ne sont d'ailleurs pas levées, me semble-t-il. Donc on a des personnages cyniques, incarnés par un quatuor d'acteurs de haut vol. On a la sublime, belle, fragile et perverse à la fois Marine Wacht, un Pierre Niney plein de charme, François Cluzet en homme saisi par le démon de midi, totalement paumé face à ce qui lui arrive, et Isabelle Adjani en actrice has-been, vivant dans le passé, et pas un de ses personnages pour racheter l'autre. On a un scénario très habile, mais parfois un peu confus, une réalisation de classe, bref, un film où jamais on ne s'ennuie tant il s'y passe de choses. On regrettera, je le répète une fois de plus, une longueur un peu excessive et une construction qui peut paraître déroutante.
C'est un film avec un très beau casting, c'est ce qui m'a attiré d'abord pour aller le voir. Un film avec de nombreux flashbacks, hein, avec des retours au présent, c'est-à-dire le tribunal. Les flashbacks nous permettent petit à petit de découvrir le pourquoi de ce tribunal. Ce film est confus, ça c'est mon goût. Il faut s'accrocher pour ne rien rater de l'intrigue entre rapports amoureux et criminalité. Oui, ce film est signalé comme crime, criminalité qui se profile. Pour une fois, je n'ai pas trouvé le film trop long.
Ah, hein. C'est bien.
Bah oui, c'est une exception. Mais je suis quand même sorti mitigé quand même, c'est-à-dire que je suis entre les avis contre et les avis pour, je suis au milieu.
Bon, ben voilà, donc Mascarade, Pâté Quinconce, Colisée, Méga CGR. Amsterdam, ben cette fois-ci, c'est Pathé Quinconce et Méga CGR avec de la VO dans chacune des salles. Amsterdam, c'est un film de David O. Russell, réalisateur, scénariste, producteur américain né en 58. Il a commencé par des courts-métrages. Un premier long en 94 qui me semble inédit en France, intitulé Spanking the Money. Puis ensuite, 96, Flirter avec les embrouilles avec Ben Stiller et Patricia Arquette. 2000, le film qu'il a révélé, Les Rois du Désert, avec un casting de folie, et George Clooney, Mark Wahlberg, Ice Cube. 2004, J'adore Huckabees avec Jason Schwartzman, Mark Wahlberg, Hoffman. Ah mince, ça y est, le prénom de Hoffman. Bon, peu importe.
L'acteur américain ?
Oui !
Dustin ?
Dustin Hoffman, ah. Voilà, Dustin Hoffman, exactement. Pourquoi je ne trouvais pas ? 2010, Fighter avec Mark Wahlberg et Christian Bale. 2012, Happiness Therapy avec Bradley Cooper, Jennifer Lawrence et Robert De Niro. American Bluff en 2013 avec Bradley Cooper, Christian Bale. 2015, L'Amour par accident. Ça, ça a été envoyé directement en VOD. Pourtant, c'était avec un beau casting. Jake Gyllenhaal et Jessica Biel. 2015, Joy avec Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Robert De Niro. Vous voyez, un réalisateur qui a des castings de folie. Et bien, c'est toujours le cas avec Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington. Mais il y a aussi Robert De Niro dans ce film et d'autres. 2014, c'est la longueur. L'histoire de trois amis proches qui se retrouvent au centre de l'une des intrigues parmi les plus secrètes et choquantes de l'histoire américaine. Alors, le synopsis ne vous en dit pas beaucoup, je n'en dirai quand même un tout petit peu plus, quand même. Là aussi, très partagé, hein, le Parisien. Le film bénéficie de numéros épatants d'un nombre impressionnant de grands comédiens américains qui tous adorent ce cinéaste. Jean-Luc Verhoeven, Le Point, un casting de luxe pour un film feu follet, à la mise en scène survoltée, parfois foutraque, à l'image de son auteur qui ne manque pas d'idées ni de charme et ne rechigne pas aux diversions et aux longueurs, je confirme. Adrien Gombeau, Les Échos, un film joyeusement foutraque, ben t'es un là aussi, et une réflexion mélancolique sur l'histoire portée notamment par Christian Bale et Margot Robbie. Antoine Desrudes, écran large. David O. Russell voudrait signer une comédie douce-amère sur la montée inévitable du fascisme et sur le papier, c'est passionnant. Mais à trop jouer sur l'ironie dramatique et ses ruptures de ton hasardeuses, Amsterdam se prend les pieds dans le tapis. Reste de beaux apparats, à commencer par un casting savamment pensé. Nicolas Chalère dans L'Obs, le 10e film de David O. Russell, ravive les grandes heures d'un cinéma hollywoodien ambitieux que l'on croyait perdu en salle. Las, son passionnant sujet et sa folie à la frère Cohen s'émoussent dans une mise en scène lunatique et un final aussi attendu qu'explicatif. Quel plaisir néanmoins de fréquenter ce trio d'insoumis. Pierre Lund dans Première, Margot Robbie, Christian Bale, John David Washington mènent le bal d'un film à la complexité ambitieuse et à la mise en scène extravagante, mais qui a tendance à partir un peu trop dans tous les sens. Le journal du dimanche, inspiré de faits réels, ce nouveau film choral de David O. Russell s'égare dans les méandres d'un scénario tentaculaire et chaotique pour dénoncer la situation des vétérans. Tergiversation, longueur et bavardage, mais on se laisse séduire par le casting 3 étoiles et l'humour décalé. Théo Ribeton, Les Inrecuptibles, de gros moyens, un casting poids lourd pour à l'arrivée une fable burlesque sous vide. Samuel Douer, Télérama, le mélange de genres convainc d'autant moins qu'Amsterdam est plombé par une logorée pénible. Le réalisateur a jugé son scénario si compliqué qu'il l'explicite plutôt trois fois qu'une dans ses dialogues. Et le Figaro, tout ça pour une comédie policière qui rame affreusement, dans laquelle les acteurs cabotinent péniblement, un beau gâchis. Ben, je suis pas loin de penser la même chose de ce Amsterdam que j'ai vu en VO pourtant. C'est un film qui relève du genre film noir à portée politique. Mais ça, la portée politique, on ne la découvrira vraiment que dans la dernière demi-heure. C'est inspiré de faits vrais, méconnus. Alors, faits vrais, on le découvre aussi dans le générique de fin. Le film met en scène trois amis, deux hommes et une femme, qui se sont connus lors de la Première Guerre mondiale. Ils se sont connus en Europe. Ce sont des Américains, ils se sont connus en Europe. Et qui se retrouvent, du moins les deux hommes avec la jeune femme, en 1937, aux États-Unis, parce que la jeune femme a disparu mystérieusement. Et ils la retrouvent donc en 1937. Un film qui commence comme une enquête sur une mort mystérieuse que le trio soupçonné d'en être l'auteur va chercher à élucider. Alors c'est atrocement bavard. C'est hyper compliqué, ça multiplie les digressions et ça met un temps fou pour arriver à l'essentiel. Alors on peut penser que beaucoup de spectateurs décrocheront en cours de route, tant cela est confus. alors qu'il y avait quand même moyen de faire beaucoup, beaucoup plus simple et efficace. On peut y voir un film sur l'amitié indéfectible, sur la fraternité des armes, puisqu'il est question du sort des vétérans après la Première Guerre mondiale, et puis bien d'autres thèmes, mais c'est long, c'est long, c'est long. Heureusement, les acteurs sont là pour faire le job, notamment Christian Bale en médecin gueule cassée, rescapé de la Grande Guerre, mais à trop s'éparpiller, le film perd toute efficacité, et quand enfin on entre dans le vif du sujet d'un complot fascisant visant à s'emparer du pouvoir en Amérique, eh bien, il y a longtemps qu'on a renoncé à vraiment s'intéresser au film. Bref, c'est un brillant exercice de mise en scène et de direction artistique, avec des décors ultra soignés et une reconstitution d'époque. Mais c'est parfaitement vain, même si on sent bien que l'auteur veut voir dans son histoire des résonances avec l'Amérique d'aujourd'hui. Moi, je dois dire que j'ai eu beaucoup de mal à me rester éveillé pendant une bonne partie du film. Voilà, 2h14.
Ah oui,
et
même.
Je l'ai vu en VO, donc ça oblige à lire les sous-titres quand même pour rester éveillé. Mais j'ai trouvé beaucoup, beaucoup, beaucoup de bavardage, mais vraiment énormément. Beaucoup de digressions. On peut couper une demi-heure au film, et il garde le même sens. Et bon, ben voilà. Amsterdam, pas Colisée, méga CGR et Pathé Quinconce. Le secret de Pamphyre. Alors là, exercice de prononciation, c'est un film de Dmytro Sokolotsky Sobchuk, réalisateur ukrainien, dont c'est le premier long métrage, et ce Serment de Pamphyre a droit à une ou deux séances au cinéaste, en version originale comme il se doit. Durée du film, 1h42. De quoi est-il question dans ce Serment de Pamphyre, titre original Pamphyre tout court? Dans une région rurale, aux confins de l'Ukraine, Pamphyre, véritable force de la nature, retrouve femme et enfant après de longs mois d'absence. Lorsque son fils se trouve mêlé à un incendie criminel, Pamphyre se voit contraint de réparer le préjudice. Mais devant les sommes en jeu, il n'a d'autre choix que de renouer avec son passé trouble, au risque de tout perdre. Eh bien là, c'est l'unanimité dans la presse. La Croix, Céline Rouden, découvert à Cannes, son premier film à mi-chemin entre le polar et la tragédie antique, est une splendeur visuelle. Étienne Sorin parle d'un premier long-métrage impressionnant entre western et film noir. Les Échos, Adrien Gombeau, à 39 ans, le réalisateur signe un premier long-métrage puissant sur fond de contrebande entre l'Ukraine et la Roumanie, une révélation. Thierry Chaise, dans Ouest France, déclare tout simplement qu'un cinéaste majeur est né. Yannick Velu, dans Paris Match, un premier film, une grande maîtrise. Emmanuel Spadacenta, dans Cinématiseur, une démonstration de force. Et Thierry Chaise, qui était un peu bref dans Ouest France en disant un cinéaste majeur est né, est un peu plus loquace dans Première. Cette rigueur d'écriture et de réalisation permet au récit d'évoluer entre plusieurs genres, thriller, comédie absurde, action, voire folk horror, sans jamais se perdre et nous perdre, et de maintenir intact, jusque dans sa dernière droite, un suspense prenant. Nous ne sommes pas allés voir Pamphyre.
Pas vu. Et pourtant, les critiques sont bonnes.
Oui, mais bon, bah, les horaires font que voilà, c'est pas quoi, simple, puisqu'il y a quelquefois qu'une seule séance dans la journée à 20h30 ou à 18h30. Bon, c'est un peu compliqué. Voilà, donc pas vu, mais semble-t-il un film intéressant à voir donc au cinéaste. Pause musicale. Eh bien, dans le générique de fin d'Amsterdam, on entend cette chanson Time, et l'auteur, le chanteur s'appelle Jiveon. Je n'ai jamais entendu parler, mais c'est l'occasion dans Clap d'écouter Time, Jiveon sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
We had together. A time when all things were better, all of those moments may have gone too soon, they meant so much. I never knew. For only now can I truly see how much that time with you, that time. Even though for as long as I'll remember. So much I have done has withered away, but never these memories I cherish today. How could I have known just how strong they could be? They changed my life in ways I can't believe. In those moments will stay forever. So
un titre que l'on entend à la fin, sur le générique de fin du film Amsterdam. X, oui, la lettre X. C'est un film qu'on peut voir au Colisée. Attention, il n'y a que souvent deux séances par jour. C'est un film de Ty West. Ty West est un réalisateur plutôt de films d'horreur jusqu'à maintenant. La plupart de ses films sont sortis en VOD ou en DVD. Je n'ai pas souvenir d'un film qui soit vraiment sorti en salle jusqu'à maintenant. Il a aussi à son actif de nombreuses... de nombreux épisodes de séries télé. Et donc, X me semble donc être son premier long-métrage sorti sur les grands écrans. Alors, X s'est interné au moins de 16 ans. À la fin des années 70, une équipe de tournage a investi une maison isolée du fin fond du Texas pour y réaliser un film X. Tombé de la nuit, les propriétaires des lieux surprennent les cinéastes amateurs en plein acte. Le tournage vire brutalement au cauchemar. C'est pas fréquent, mais la presse a apprécié et est allée voir X. Libération, Olivier Lam, aussi réussi qu'inattendu, le slasher 70s de Ty West, envoie au massacre l'équipe d'un film pornographique avec la géniale Mia Goth dans le rôle de la tueuse et celui de sa proie. Caroline Vier, 20 minutes. Loin de donner des leçons de morale, Ty West prend un malin plaisir à mêler sexe et sang à une bonne dose d'humour très noir. C'est ce qui fait le charme de ce film très corsé, à réserver à un public averti. Mathieu Jaborska, dans l'écran large, Ty West réussit brillamment là où nombre de ses collègues échouent depuis des années. Stéphanie Belpech, le journal du dimanche, Ty West, la nouvelle sensation du cinéma d'horreur, revisite avec générosité et jubilation Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper. Ou ouais, enfin, faut pas exagérer, c'est pas un remake. Hein, dans ce slasher complètement détraqué, qui équilibre dérision et gore, mais surtout qui fourmille d'idées de mise en scène, revigorant, conclut Stéphanie Belpech. Adrien Gombeau dans les échos, petit film d'horreur vintage et malin, X bénéficie d'un scénario habile et d'une composition virtuose de l'actrice britannique Mia Goth, de quoi prolonger Halloween au cinéma. Enfin, West France, le scénario quelque peu attendu est heureusement pour lui transcendé par la présence et la prestation de Mia Goth. Donc moi je suis allé voir, ce que je n'avais pas du tout prévu au départ, ce X, parce que la revue de presse était quand même assez incroyable. Donc c'est un film d'horreur, et un film d'horreur qui sort, je le reconnais, assez nettement de l'ordinaire. On est plus proche d'un film comme Psychose d'Hitchcock que des habituels films du genre. Voilà, donc l'histoire elle est simple, on est en 1979, on a un groupe de 6 personnes qui vivent dans la région de Houston et qui décident d'aller tourner un film porno. Oui, c'était un genre en plein essor à l'époque, c'était les débuts de la VHS. Hein, et d'aller tourner ce film dans la campagne texane. Et pour cela, ils ont loué une maison dans une ferme isolée appartenant à un couple de vieux, peu accueillants et assez étranges, qui n'est pas au courant de l'utilisation qu'on va faire de sa ferme. Et les choses ne vont pas du tout se passer comme prévu. Le film prend vraiment son temps pour rentrer dans le vif du sujet parce que le film fait 1h45 et il s'écoule une heure, montre en main, au cours de laquelle le réalisateur installe l'atmosphère avant qu'il y ait le premier meurtre sanglant. Donc pour un film d'horreur, il faut attendre une heure avant d'avoir un premier film sanglant, un premier meurtre sanglant. Et puis, alors rassurez-vous, les victimes ensuite vont s'enchaîner, toutes trépassant de façon bien sanglante. Le film, c'est l'occasion d'évoquer l'atmosphère contradictoire des années 70 aux États-Unis. la libération sexuelle d'un côté et le puritanisme de l'autre, et les deux se côtoient. Pas sûr que les fans de films gore apprécient l'œuvre, parce qu'ils trouveront le temps bien long avant la première scène vraiment violente et sanguinolente, mais il faut reconnaître qu'il y a un vrai savoir-faire chez Ty West. À noter que l'actrice principale, Mia Gott, joue deux rôles totalement opposés, il faut le savoir pour le croire, parce qu'elle joue à la fois la proie et la victime, sauf que la proie, elle doit avoir 25-30 ans, la graisseuse, elle doit avoir 80-90 ans. Donc, si vous n'êtes pas au courant, vous ne pouvez pas vous rendre compte que c'est la même actrice. Donc, c'est un film hommage à un certain cinéma des années 70, oui, celui de Tobe Hooper, à qui on rend un hommage de façon évidente dans le film. Voilà, donc, un film qui est intéressant dans le genre film d'horreur. Pour une fois, c'est quand même nettement mieux que ce qu'on voit d'habitude, que les Halloween Ends ou autres. Mmh. J'ai pas vu Halloween Ends, je me suis contenté de regarder cette semaine Halloween Kills. Ça m'a pas donné du tout envie d'aller voir Halloween Ends, qui est la suite. Mais enfin, peu importe, voilà. Bien, ça s'appelle X, c'est au Colisée. Attention, il n'y a que deux séances, et en général, c'est des séances plutôt le soir. Close. Cette fois-ci, on part, ou plus, on revient au cinéaste pour ce film de Lucas Dont. C'est un réalisateur belge, Lucas Dont, réalisateur scénariste qui est né en 91. Il a fait deux courts-métrages et puis en 2018, un film que j'avais bien apprécié, Girl, un film présenté déjà à l'époque au cinéaste avec Victor Polster et Arié Vorthalter. Close, ça dure 1h45. Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours, jusqu'à ce qu'un événement impensable les sépare. Léo se rapproche alors de Sophie, la mère de Rémi, pour essayer de comprendre. C'est pas tout à fait juste la fin, je trouve. Enfin, bon, passons. Le Parisien, avec une sidérante finesse et une magnifique subtilité, Close, récompensé du Grand Prix en mai dernier à Cannes, creuse les non-dits d'une relation avortée trop tôt et ses conséquences sur celui qui reste quand l'autre est parti. Le Journal du Dimanche, chronique adolescente, virant mélodrame, ce deuxième film bouleversant, signé Lucas Dont, confirme son talent d'explorateur de l'intime. Tiré chez en première, Close devient alors un film sur la culpabilité de celui qui reste, et Dont joue des ellipses pour ne jamais verser dans l'insoutenable, quitte parfois à retenir un peu trop artificiellement les chevaux. Écran large, Axel Vaché, moins viscéral que le premier film de Lucas Dont, Close présente malgré tout une chronique émouvante sur l'amitié, l'intimité et l'innocence à l'épreuve des codes traditionnels hétéronormatifs. Wow. Bruno de Ruisseau, les Inoccupables, Close, semble pétrifié dans sa joliesse et inversement proportionnel à l'horreur du drame et à la douleur que vivent les personnages. Cette joliesse finit par tenir le film à distance de son sujet, de l'émotion et finalement des spectateurs, spectatrices. Télérama, Marie Sauvion, cette chronique d'une intense amitié adolescente mise à mal par les clichés du genre vire au mélo appuyé. Fernando Ganzo dans Cahiers du cinéma, aussi mouvante soit-elle, cette réduction de la vie en symbole, du cinéma en leçon, du personnage en pion du destin, se fait au détour du plus cruel Deus ex machina imaginable, dont on nous donne en même temps les raisons et l'absolution de toute responsabilité. Xavier Lerper dans l'Obs. Sur un scénario en creux, le cinéaste greffe des séquences bucoliques, les deux gamins courent beaucoup, mais vraiment beaucoup dans les prés, qui semblent sans cesse différer son véritable sujet, mais à force de l'éviter, le jeune réalisateur finit par passer à côté. Voilà, donc Close, présenté par les cinéastes. Donc Léo et Rémi sont deux jeunes garçons, 13 ans, ils sont copains depuis toujours pratiquement, et ils font les 400 coups comme les ados de leur âge, voilà. Et puis subrepticement, Léo s'éloigne de Rémi. Une sorte de malaise s'installe entre eux, s'immisce dans leur relation, jusqu'à ce que survienne un drame. Voilà, le film continue bien entendu, c'est un film plein de pudeur, de non-dits, beaucoup de non-dits, d'ellipses, un film épuré, éthéré même je dirais, au ton juste où jamais le pathos n'a sa place. C'est filmé au plus près des personnages, il y a très peu de plans larges, c'est très souvent filmé en très gros plan, en gros plan, plein de silence où les regards disent toute la détresse des uns et des autres avec une infinie délicatesse, une grande pudeur. C'est un film fait de micros événements filmé par petites touches comme un tableau pointilliste. Un film qui évoque des choses tues, inexprimées, mais pourtant ressenties par Léo, comme la culpabilité. C'est du cinéma intimiste, réalisé avec un vrai style, des parties prises de mise en scène, servies par des comédiens parfaits, que ce soit les deux jeunes acteurs ou les adultes, notamment Émilie Dequesne et Léa Drucker. Attention, hein, c'est un film d'auteur avec des choix particuliers, c'est pas du cinéma de divertissement.
C'est un film que je diviserais en deux parties, moi. Il y a l'avant et l'après. Est-ce que je dois dire après quoi ? Non, on ne va pas le divulguer, mais enfin, après la disparition de l'un des deux garçons. Moi, j'ai préféré l'après. Un film sur l'amitié entre deux préadolescents, et plus que de l'amitié, une sorte de proximité physique et mentale. D'ailleurs, close veut dire, l'adjectif close, hein, veut dire proche, en français. Et puis, l'après, la solitude de l'un des deux garçons. Et c'est là que j'ai enfin beaucoup aimé le film. Ce que je n'ai pas aimé dans tout ce film, dans l'ensemble, c'est la récurrence des séquences, et notamment celle des matchs de hockey sur glace. Si vous êtes allergique à ce sport, vous allez en avoir une indigestion. À part ça, j'ai trouvé l'histoire très émouvante. Et ce film, tu l'as dit tout à l'heure, ce film a obtenu le grand prix du jury au dernier festival de Cannes.
Voilà, ça s'appelle Close et c'est proposé par les cinéastes. Tout comme Jackie Caillou, proposé aussi aux cinéastes. Jacques Caillou est moins bien loti. Il y a une séance par jour et encore pas tous les jours puisque samedi, il n'y a pas de Jackie Caillou. Ça dure 1h32. C'est un film de Lucas Delangle. Et je pense que ça doit être un premier film parce que je n'ai pas trouvé d'autres occurrences dans sa filmographie. Donc, un village de montagne, haut dans les Alpes. Jackie Caillou vit avec sa grand-mère, Gisèle, une magnétiseuse guérisseuse reconnue de tous. Alors que Gisèle commence à lui transmettre son don, une jeune femme arrive de la ville pour consulter. Une étrange tache se propage sur son corps, certain qu'il pourra la soigner. Jackie court après le miracle. Alors, Lelo, Jimmy, Batista, qu'en passe-t-il dans Libération ? Dans les faits, c'est un petit chef-d'œuvre de fantastique pastoral, plein de petits riens et de choses impossibles, modestes et immenses à la fois. Vincent Maloza dans Cahiers du cinéma. Bien plus qu'une énième tentative de fantastique à la française, Jackie Caillou est d'abord la chronique nue et redoutable d'une passion et le récit d'une initiation, celle menant par-delà toute contingence, esthétique, narrative ou de genre, à la révélation d'un amour fou dans la vie simple et discrètement oraculaire de Jackie Caillou. Xavier Lerpeur dans l'Obs, un jeu de genre réussi, porté par la prestation de l'excellent Thomas Parigi dans le rôle-titre. Clarisse Favre dans Le Monde, ce premier métrage mêle naturalisme et fantastique dans un récit en apesanteur où l'amour tente de dévier le cours des contes cruels. Bruno de Ruisseau dans Les Inrecuptibles, porté par un super duo d'acteurs, Lou Lampros et Thomas Parigi, Jackie Caillou brille par la croyance que Lucas Delangle insuffle dans son film avec une vraie épure qui confine à l'ascèse stylistique. Le film déploie un univers où s'entrechoque teen movie rural, film fantastique et déférence au cinéma d'Alain Guiraudy. Alain Guiraudy, c'est un film qui s'appelle L'Homme du Lac, par exemple. Sylvestre Picard, en première, la sincérité et l'authenticité, il y en a énormément dans Jacques Caillou. Mais le film coince parfois en se laissant ligoter par une esthétique trop timide, en n'osant pas assez s'aventurer vers un monde magique et monstrueux. Jackie Caillou, 1h32 au cinéaste. Nous ne sommes pas allés voir Jackie Caillou. Moi, je n'avais pas du tout envie d'aller voir Jackie Caillou. Allez, La Bambola, c'est un titre qu'on entend dans Mascarade et on l'entend, il me semble, à deux reprises, notamment sur le générique de fin de ce film de Nicolas Bedos. La Bambola, Patti Pravo, oh, ça doit rappeler des choses éventuellement à Pierre Patti Pravo, non ?
Pas vraiment.
Pas du tout, les années 60.
Années 60, hein,
oui, je crois bien, oui, Patti Pravo. Eh bien, c'était la Bambola, Patti Pravo. Ah bah, tu connais pas.
C'est non, pas du tout.
Italienne, elle est plus toute jeune, elle est dans les années 40. Voilà.
Ah
et
oui,
donc, oui, c'est une très célèbre chanteuse italienne. Moi, je me rappelle d'avoir écouté Patti Pravo. Bon, voilà, bah, tant pis pour elle. Hein. Bien, alors,
non, mais je, sais que...
je crois que c'est une très, très grosse chanteuse en Italie. Hein. C'est l'équivalent d'une Dalida ou un truc comme ça. Hein. Alors, une robe pour Mrs. Harris. Titre original, Mrs. Harris Goes to Paris. C'est un film d'Anthony Fabian. Anthony Fabian, réalisateur, scénariste, producteur. Il a à son actif deux longs métrages qui me semblent inédits en France jusqu'à maintenant. 2008, Skin. Et 2013, Louder Than Words. Louder Than Words, c'était avec David Duchovny et Hope Davis. Mais je ne crois pas que ces films ont été distribués. Une Europe pour Mrs. Harris, c'est un film qu'on peut voir au Méga CGR et au Pathé Quinconce, avec de la VO d'ailleurs. C'est un film d'une durée d'une heure 56 dans le Londres de l'après-guerre. Ada Harris gagne sa vie en faisant des ménages. Si elle mène une vie très solitaire depuis le décès de son mari Eddie, porté disparu au combat, Ada n'est pourtant pas du style à se plaindre, ni même s'apesantir sur son sort. Et pourtant, elle qui se croyait les pieds bien ancrés dans la réalité est tout à coup submergée par une vague de rêves et d'émerveillement quand elle découvre une magnifique robe signée Dior, nonchalamment accrochée dans la chambre d'une de ses riches clientes. Elle se surprend alors à penser qu'une si belle œuvre d'art, si pure, si éthérée, ne peut que changer la vie de quiconque la possède. La revue de presse, Le Figaro... Paris de cartes postales à la drôle de frimousse, intrigue cousue de fil blanc, scintillant, certes, mais le charme de son héroïne généreuse au franc-parler redoutable qui ne perd jamais sa dignité opère. Stéphanie Belpech, le journal du dimanche, ce conte de fées sur la nécessité de croire en ses rêves, concentre son propos sur la lutte des classes et le féminisme, ou enfin bon, à travers une héroïne terriblement attachante. En dépit de quelques clichés sur Paris, ce feel-good movie touche par sa bienveillance. Quelques clichés, il faut aller voir le film, hein. Corinne Renaud-Lativelle-Lacroix, un conte de fées qui désole et réjouit à la fois. Samuel Douer, Télérama, ce cinéma de grand-maman, réussit deux exploits. Battre le record de mièvrerie accumulé en deux heures de projection, mais quatre en durée ressentie. Et par sa reconstitution ridiculement carte postale de la France de l'après-guerre, faire passer la série Emily in Paris pour un film des frères Dardenne. Ah oui, d'accord. Thierry Chaise en première, on a beau adorer Leslie Manville et voir dans sa présence un clin d'œil à Phantom Thread, elle ne peut lutter face à la faiblesse insigne d'un scénario englué dans les clichés, tant sur la lutte des classes que sur la vision de Paris, sans jamais réussir à les détourner. Eh bien, j'ai vu Une robe pour Mrs. Harris, je l'ai vu en VO. C'est une sorte de conte de fées pour adultes complètement démodé. On est à Londres en 1957, Mrs. Harris est une modeste femme de ménage, veuve de guerre, qui rêve de s'offrir une robe du célèbre couturier Christian Dior comme celle qu'elle a vue chez une de ses patronnes et qui l'a éblouie. Pas la patronne, la robe. Mrs. Harris parvient vaille que vaille grâce à une conjonction de situations favorables à réunir la somme nécessaire pour se rendre à Paris et donc aller acheter cette fameuse robe. Là, elle découvre un monde à 100 000 lieues de son quotidien, mais sa gentillesse permanente et son franc-parler vont lui ouvrir bien des portes, lui faire faire des rencontres et même initier une sorte de révolution chez le grand couturier. On se demande bien ce qui a pu pousser les auteurs à se lancer tenter par cette aventure, au charme complètement suranné, où tout est cliché, comme cette vision du Paris de l'époque. Peut-être la volonté de rendre hommage à la haute culture et à la maison Christian Dior. Alors là, si c'est ça l'objectif, c'est parfaitement réussi. C'est le meilleur du film. On assiste au défilé, reconstitution des défilés de haute couture de l'époque, la visite des ateliers faite en détail, la hiérarchie dans les maisons de couture, les difficultés aussi rencontrées à l'époque, ce qui sont vraies par cette grande maison. Tout ça, ça c'est excellent. Mais pour le reste, on a un film, alors certes charmant à l'image de son héroïne, mais... un film complètement superflu, sur le besoin de croire en ses rêves malgré l'adversité. Alors c'est sauvé malgré tout par quelques-uns de ses acteurs. Leslie Manville est adorable, une petite bonne femme pleine de bon sens, qui ne se plaint jamais et qui est positive en toutes circonstances. Et puis il y a Isabelle Huppert qui est assez bluffante dans un rôle qu'on n'a pas à la voir, on ne la voit pas souvent. Elle est une directrice de la maison de Dior, un véritable cerbère, acariâtre, pleine de mépris et de morgue, revêche à souhait. C'est vraiment une grande composition, c'est un second rôle, mais vraiment elle est excellente. Le reste du casting étant plutôt pittoresque. Il y a notamment Lambert Wilson qui joue un aristocrate un peu décavé. Un film plein de bienveillance jusqu'à la mièvrerie, mais pas désagréable quand même. Mais comme il existe des romans à l'eau de rose, on pourrait qualifier ce film de film à l'eau de rose. Voilà. Donc, bon, franchement, je ne peux pas recommander ce film-là, sauf ceux qui aiment ce genre de littérature à l'eau de rose, je répète. Arca. Alors, Arca, c'est un long métrage qui est proposé par les cinéastes. C'est un premier long métrage de Lofty Nathan. Il avait auparavant réalisé un documentaire. Arca a droit à une séance par jour. Et la durée de ce film, 1h22. Arca. Ali, jeune Tunisien rêvant d'une vie meilleure, mène une existence solitaire en vendant de l'essence de contrebande au marché noir. À la mort de son père, il doit s'occuper de ses deux sœurs cadettes, livrées à elles-mêmes dans une maison dont elles seront bientôt expulsées. Face à cette soudaine responsabilité et aux injustices auxquelles il est confronté, Ali s'éveille à la colère et à la révolte, celle d'une génération qui, plus de 10 ans après la Révolution, essaie toujours de se faire entendre. La presse a apprécié. C'est elle, Françoise Delbecq, qui parle d'un film sobre et magnifiquement filmé. Delphine Minoui dans Le Figaro, Paris réussi pour un premier film de fiction d'une force inouïe. Alexis Campion, Journal du Dimanche, bouleversant dans son désespoir. Adam Bassa brille par tous les registres du film, du western à la tragédie finale urbaine, atroce, emblématique du printemps arabe. Renaud Barognan dans Le Parisien pour camper son héros. Le réalisateur a eu la lumineuse idée de faire appel à Adam Bassa. De tous les plans, le comédien français casse la baraque dans la peau de ce jeune Tunisien, acharné à la tâche, qui doit sans cesse masquer ses sentiments, ce qui va finir par le faire sortir de ses gonds. Marie-Lou Duponchet dans Les Irrecuptibles, film souvenir, film portrait, film fantôme ou brûlot politique. Arca est une météorite traversée d'une élégie rugueuse, du lyrisme désenchanté des condamnés. Thierry Chaise dans Ouest France, un portrait aussi passionnant qu'implacable de la Tunisie post-printemps arabe. La Croix, Céline Rouden, avec ce héros solitaire et ses chevauchées mécaniques dans des paysages arides, Lofty Nathan, réalisateur prometteur, donne à ce premier film de fiction des allures de western et nous fait mesurer sèchement tout l'échec d'une révolution qui n'a pas réussi à redonner de l'espoir à sa jeunesse. Ça s'appelle Arca, c'est proposé par les cinéastes avec une séance par jour et nous ne l'avons pas vu.
Non.
Voilà. Nous n'avons pas vu non plus Comedy Queen, mais Comedy Queen, c'est un film qui, semble-t-il, fait partie du Grain d'Image Junior plutôt, même
oui.
S'il est sorti que cette semaine. C'est ce Comedy Queen, c'est un film de Sana Lenken. Sana Lenken, c'est une réalisatrice scandinave, suédoise plus précisément. Le film dure 1h33. Dans la vie, il y a deux catégories de personnes, celles qui sont naturellement drôles et celles qui peuvent apprendre à le devenir. Sacha, 13 ans, appartient à la deuxième catégorie. Pour ne surtout pas ressembler à sa mère, qui est toujours triste, elle décide de devenir une reine du stand-up et de faire à nouveau rire son père. Voilà, ça c'est le synopsis de ce film d'une heure 33. Candy La Presse, bien Barbara Théâtre dans Le Journal du Dimanche, venue de Suède, cette chronique mêle avec finesse et délicatesse les turbulences de l'adolescence et la difficulté de faire prématurément son deuil. Elle doit beaucoup à la prestation de sa jeune et lumineuse actrice, capable d'une incroyable résilience face aux épreuves qui l'attendent à l'école et chez elle. Cette jeune actrice s'appelle Sigrid Johnson. Frédéric Strauss dans Télérama, une manière simple et sensible, sans être naïve, d'aborder la question du deuil à un âge où elle ne devrait tellement pas se poser qu'il faut l'apprivoiser en s'inventant des défis marrants. Et enfin, Marie-Lou Duponchel, Les Irrecuptibles. Comedy Queen a quelques bonnes idées sur la question du deuil, notamment sur la matérialité du chagrin et de la tristesse, mais aussi sur la catharsis salvatrice des mots et de l'humour. Pourtant, il finit, c'est le film, par succomber à sa logique d'évitement quand il fait revenir dans les flashbacks subliminaux à l'image trop léchée, le fantôme de la mer. Voilà, Comedy Queen, 1h33, proposé par les cinéastes. Allez, un dernier titre. C'est un titre que l'on entend dans le film Une robe pour Mrs. Harris. Ça se passe dans les années 50. C'est la grande époque de l'existentialisme et de Juliette Gréco. Mmh. Et donc, on entend ce titre de Juliette Gréco. On n'oublie rien sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans.
On n'oublie rien de rien. On n'oublie rien du tout, on n'oublie rien de rien, on s'habitue, c'est tout. ni ses départs, ni ses navires, ni ses voyages qui nous chavirent de paysage en paysage et de visage en visage. Ni tous ces ports, ni tous ces bars, ni tous ces attrape-cafards où l'on attend le matin gris au cinéma de son whisky. Ni tout cela, ni rien au monde ne sait pas nous faire oublier, ne peut pas nous faire oublier qu'aussi vrai que la terre est ronde, on n'oublie rien de rien, on n'oublie rien du tout, on n'oublie rien de rien, on s'habitue, c'est tout. Ni c'est jamais, ni c'est toujours, ni c'est je t'aime, ni ces amours que l'on poursuit à travers le cœur, de gris en gris, de pleurs en pleurs. Ni ces bras blancs d'une seule nuit, collier de Jules pour notre ennui, que l'on dénoue au petit jour par des promesses de retour. Ni tout cela, ni rien au monde ne sait pas nous faire oublier, ne peut pas nous faire oublier qu'aussi vrai que la terre est ronde, on n'oublie rien de rien, on n'oublie rien du tout, on n'oublie rien de rien, on s'habitue, c'est tout. Ni même ce temps où j'aurais fait mille chansons de mes regrets, ni même ce temps où mes souvenirs prendront mes rides pour un sourire, ni ce grand lit où mes remords ont rendez-vous avec la mort, ni ce grand lit que je souhaite à certains jours comme une fête. Ni tout cela, ni rien au monde ne sait pas nous faire oublier, ne peut pas nous faire oublier aussi vrai que la terre est ronde. On n'oublie rien de rien, on n'oublie rien du tout, on n'oublie rien de rien, on s'habitue, c'est tout.
Julienne Gréco, c'est une chanson de Jacques Brel. D'ailleurs, moi je la connaissais interprétée par Jacques Brel. On n'oublie rien et on entend cette chanson dans Une Europe pour Mrs. Harris. Voilà, eh bien, on a parlé des films à l'affiche cette semaine. On va parler de ceux qui seront à l'affiche la semaine prochaine. Et on commence. Alors, il n'y a pas d'avant-première, c'est extrêmement rare, mais il n'y a pas d'avant-première. On commencera par Black Panther, Wakanda Forever. Attention, ça dure 2h41, c'est la suite du Black Panther. Moi, j'avais vu, pas au cinéma, mais j'avais vu ce Black Panther quand il avait été proposé à la télévision sur une chaîne cryptée. Et j'avais été agréablement surpris. Moi, qui ne suis pas un grand fan des Marveleries, je dois dire que ça passait. Alors, je ne sais pas si j'irai le voir, parce que 2h41, c'est un peu long quand même. Armageddon Time, ça, je vais aller le voir, c'est sûr, c'est de James Gray. Moi, j'aime bien le cinéma de James Gray. Et donc, c'est un film avec Anne Hathaway, Jeremy Strong, etc. Il y aura également Couleur de l'incendie de Clovis Cornillac, scénario de Le Maître. Le Maître, c'est le gars qui avait fait Au revoir les enfants. Je ne dis pas le prénom parce que je m'en suis plus sûr. Moi, je l'ai vu déjà, Couleur de l'incendie, et j'étais globalement très déçu par le film. Bon, enfin, on en reparlera la semaine prochaine, peut-être. Trois nuits par semaine, ça sera au cinéma, ça c'est sûr, mais peut-être ailleurs aussi. Pacifiction, là, 2h45, est-ce que je vais tenter le coup d'aller voir Pacifiction? Bon, je ne sais pas, Pacifiction, le sous-titre est tout sur les îles, avec Benoît Magimel. Il y aura Pétaouchnok, ça c'est la comédie de la semaine, Pétaouchnok. Un documentaire riposte féministe, alors là c'est absolument certain que je n'irai pas voir riposte féministe, c'est pas la peine que je me fasse insulter pendant 1h30 en tant que mâle blanc, pas nécessaire. Voilà, ces films-là, on est sûr qu'ils seront à l'affiche, il y en aura peut-être d'autres, je ne sais pas. Peut-être qu'il n'y aura pas Club la semaine prochaine, c'est pas encore une certitude, mais dans le pire des cas, on se retrouve la semaine dans 15 jours. Mais peut-être la semaine prochaine, on n'en sait rien. Cette semaine, Pierre, tu recommandes ?
J'ai préféré Close.
T'as préféré Close ?
Oui.
Moi, j'ai pas détesté Close. Mascarade, j'aime bien, mais c'est beaucoup trop long. Voilà.
Ah oui,
et puis
ça,
pour ceux qui aiment les films vraiment, les films d'horreur, X, ça mérite quand même le coup d'œil. Voilà, bien sûr, ces bonnes paroles, on va vous souhaiter une excellente semaine cinématographique. Et on se retrouve soit la semaine prochaine, soit dans 15 jours. On ne sait pas encore, on verra.
Au revoir.